Voilà un certain nombre d'années déjà que je me suis retiré dans un ermitage en compagnie de livres et d'instruments de musique. Il me semblait n'avoir plus rien à dire. Bernard Laurent m'a convaincu du contraire. Alors, je vais essayer de commenter dans cette chronique ce plus rien à dire qui restera toujours un encore à lire. Je vais parler de livres, certes, mais ne vous y trompez pas, ce ne sera pas un compte-rendu de lecture. Je dirai simplement quelles briques j'en ai prélevées pour édifier ma propre représentation du monde. Personne n'est dupe, l'objectivité n'existe pas. Chacun interprète les faits en fonction de la grille de lecture qui lui a été donnée et qu'il s'est construite. Aujourd'hui, sans doute encore plus qu'hier, beaucoup de gens refusent les dogmes et revendiquent leur droit à analyser le monde d'une façon autonome. Mais en a-t-on toujours les moyens ? Les théories complotistes les plus absurdes et irrationnelles témoignent sans doute d'un manque de savoir, voire de biais idéologiques ou intellectuels. Mais ils sont aussi un signe de résistance à la normativité. Cette insatiable curiosité, cette rébellion, cette revendication de penser par soi-même, on la retrouve dans les tréfonds du passé, et pas seulement chez les élites savantes. Carlo Ginzburg, inventeur de la micro-histoire, a exhumé des archives du Saint-Office les minutes d'un édifiant procès en hétérodoxie. L'accusé, condamné à être brûlé vif, était un homme ordinaire, un simple meunier, né en 1532 à Monte-Reale, une bourgade du Frioul, entre les Alpes et Venise. Il avait eu l'opportunité, chose plutôt rare à son époque et dans son milieu, d'apprendre à lire, écrire et compter. Son instruction lui avait permis de devenir un notable de sa paroisse. Mais un démon le tourmentait, celui du savoir. Alors il dévorait tous les livres qui étaient à sa portée, plutôt rares, lectures disparates, hagiographie, Bible, mais aussi récits de voyage et même le Coran. Il s'interrogeait. Ce qu'il trouvait dans ses lectures ne correspondait pas toujours aux enseignements de la religion. Alors, il se construisit son propre univers mental, sa cosmogonie, sa théorie de la formation de l'univers, et cela s'éloignait de plus en plus du dogme en vigueur, qui était inflexible en cette époque du Concile de Trente. Voici ce que nous en dit Carlo Ginzburg. Toute tentative pour considérer les livres comme des sources, au sens immédiat et mécanique du terme, échoue devant l'originalité agressive de la lecture de Menocchio. Plus que le texte, ce qui apparaît alors important, c'est la clé de lecture, la grille que Menocchio interposait inconsciemment entre lui et la page imprimée. Une grille qui mettait en lumière certains passages en cachant d'autres, qui exaspérait la signification d'un mot isolé de son contexte, qui agissait dans la mémoire de Menocchio en déformant la lettre même du texte. Et cette grille, cette clé de lecture, renvoie continuellement à une culture différente de celle qui s'exprimait dans la page imprimée. Une culture orale. Fermez les guillemets. Toute construction mentale est une culture orale dans la mesure où la vie éveillée est un long soliloque. Chacun d'entre nous est marcheur dans sa tête. On se parle à soi-même et on se raconte la cosmogonie qu'on se construit en permanence, qui s'enrichit à chaque instant de toutes les informations qui nous parviennent. Chacun s'invente un monde dont il est le centre. Ce meunier frioulan s'appelait Domenico Scandella di Menocchio. Son programme intellectuel, je l'ai fait mien. C'est pourquoi j'ai choisi son nom pour pseudonyme, Dominique Scandella. Le titre de l'ouvrage de Carlo Ginzburg est « Le fromage et les vers ».